Il est 18h à Niamey, c'est l'heure du journal de Studio Kalangou au micro Michel Deji. Les titres de cette édition, célébration ce vendredi 21 août 2020 du premier jour de l'année 1442 du calendrier musulman. Un éclairage sur l'importance de Muharram, le premier mois de ce calendrier, à suivre dans un instant. Célébration également ce jour de la Journée internationale des victimes du terrorisme. Les femmes et les enfants représentent le plus grand nombre des victimes selon la coordinatrice de l'ONG Femmes Action et Développement que vous suivrez dans ce journal. Que pourrait être la contribution de la CEDEAO dans la résolution de la crise malienne après le putsch du 18 août dernier? Le président de l'association Libre Afrique Niger répond à cette question dans le magazine du jour. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, premier jour de l'année 1442 de l'Hégire, le calendrier musulman qui prend son point de départ en 622 de notre ère suite au déplacement historique du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et plusieurs de ses compagnons de la Mecque vers Yathrib, l'actuelle Médine. Le premier mois de ce calendrier, appelé Muharram, fait partie des quatre mois sacrés de l'islam pendant lesquels il est recommandé aux fidèles musulmans de multiplier les bonnes œuvres, explication du prédicateur Cheikh Baham Aboubakar au micro de Studio Kalangou.
Ce calendrier compte 12 mois cités dans le Saint-Coran et le premier de ce mois, Muharram, fait partie des mois sacrés. Il y en a 4 qui sont des mois saints et qui fait que Dieu a mis en garde le croyant de respecter ce mois et de ne pas commettre des forfaitures durant ce mois, donc y compris durant le mois du Ramadan. Car durant ces 4 mois, tout ce que le croyant peut faire de bien et multiplier. Tout ce qu'il peut faire de mal et aussi multiplier dans le sens inverse. D'où l'intérêt vraiment de multiplier les bonnes actions durant ces mois-là et de minimiser autant que possible les mauvaises actions. C'est pourquoi il est conseillé particulièrement durant ce mois de faire des jeûnes surérogatoires si on le peut. Il y a un hadith d'Abu Huraira qui dit que je n'ai jamais vu le messager aimer jeûner après le mois de Ramadan un autre mois que le mois de Muharram. Et si vous jeûnez, par exemple, au 10e jour de ce mois Muharram, le Ashura. Ça permet aux jeûneurs d'effacer les péchés de toute l'année précédente.
Un sommet extraordinaire en visioconférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenu hier jeudi 20 août 2020 avec au centre des échanges la situation du Mali. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays, a déclaré le président en exercice de la CEDEAO Issouf Mahamadou, cité par l'hebdomadaire gouvernemental nigérien Sahel dimanche. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement qui dénie toute forme de légitimité aux militaires putschistes a aussi demandé la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre ces personnes ainsi que leurs partenaires et collaborateurs. Le temps des prises de pouvoir par la force est révolu dans notre sous-région, a conclu Issouf Mahamadou dans son discours de clôture, rapporté par le journal Sahel dimanche. À Diffa, plusieurs villages se vident de leur population pour cause d'insécurité alimentaire. Ces populations abandonnent leur habitation pour trouver refuge dans la ville de Diffa. Mais cette semaine, ce sont des réfugiés nigériens qui opèrent un déplacement de Toumour vers le village de Damasak au Nigeria. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant local, Lawan Boukar.
Au cours de cette semaine, plusieurs réfugiés quittent la zone de Toumour pour rejoindre le village de Damasak au Nigeria ou la ville de Diffa. Ils ont préféré partir pour une destination où ils trouveront de quoi survivre, nous ont confié ces deux chefs de famille.
La majorité quitte pour Damasak ou Diffa pour manque de nourriture. Un sac de riz à 45 000 naira. Un pauvre ne peut s'en procurer car il n'a rien. Il n'a aucune source de revenus, c'est la raison de notre déplacement. De Toumour, je vais à Diffa. On a faim. On a un ticket par groupe de 4, 5 ou 6 personnes. Et parfois, il y a un père de famille qui a 10 enfants. Quand on retire les vivres, ça couvre à peine 2 ou 3 jours et tout est fini. Les enfants te dérangent et tu ne peux même pas sortir pour faire une autre activité. C'est la raison qui nous pousse à partir.
Pour Yaya Godi, secrétaire général de la région de Diffa, les autorités locales prennent des dispositions pour améliorer la situation de ces personnes déplacées.
Le retour des déplacés, c'était déjà un programme qui est en train d'être mis en œuvre avec l'aide du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. C'est toujours le problème de l'insécurité qui a fait que les populations là sont en train de vider pour venir se regrouper ici dans Diffa. Même les ennemis peuvent profiter de ce mouvement. Actuellement, ces déplacés là sont en train d'être recensés. L'aspect sécuritaire est en train d'être développé pour qu'il sécurité, les infrastructures sont en train d'être faites avec l'adduction d'eau, les abris.
Toute la population de la région de Diffa espère le retour de la paix pour soulager ces personnes qui peinent à se nourrir meurtries par l'insécurité.
Aujourd'hui est la journée internationale des victimes du terrorisme. Cette journée a été initiée pour soutenir les victimes et survivants du terrorisme. Selon la coordinatrice de l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement, les groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants représentent le plus grand nombre des victimes. Nafis Hidé est au micro de Salamatou Kadri.
Il y a une très grande partie des communautés en zone de conflit qui n'ont pas accès à l'éducation. Les parents en souffrent, l'éducation est menacée. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui nous préoccupe énormément parce qu'on se demande quel sera le sort de ces enfants privés d'éducation. Quel sera l'avenir de ces familles qui aujourd'hui ont de l'espoir sur leurs enfants, espoir à ce que ces enfants-là puissent arriver un jour à faire des grandes écoles, à sortir avec des diplômes, à avoir un travail décent qui peut subvenir à leurs besoins. Pire encore, quand on parle de la situation de la jeune fille, je pense que la situation devient beaucoup plus préoccupante pour nous, organisations défenseuses des droits des femmes. Parce que dans beaucoup de zones, aujourd'hui, il y a des filles qui ne partent plus à l'école. Nous lançons vraiment un appel aux autorités pour assister ces communautés-là, pour qu'elles puissent vraiment faire face à cette situation.
Dans le département de Magaria, région de Zander, les cultures de Niébé ne subissent aucune attaque d'ennemis de culture, a déclaré Amadou Aman, le directeur départemental de l'agriculture. Selon lui, la nouvelle récolte de Niébé disponible sur les marchés de Magaria provient du Nigeria. Aman Amadou explique au micro de Hadi Maman Goto.
Pour les Niébé, on a un stade de ramification de 42%, soit 222 villages. Pour l'horizon, 38%, soit 201 villages. Formation du gousse, 18%, soit 95 villages. Et la maturité pour l'ensemble du département. Les Niébé tardifs ne donnent pas, mais les variétés hâtives, déjà, il y a certaines qui commencent à mûrir. Ça fait 11 villages, donc ça ne peut pas couvrir l'ensemble des besoins de nos marchés. Ça provient du Nigeria ou bien les stocks que les gens ont pour l'année dernière. Comme déjà, les Niébé commencent à mûrir, le sort, c'est là pour vendre. Les Niébé fraîchement récoltés donc n'a pas les mêmes prix que celui de l'année dernière, qui est plus consistant. Pour la situation de Magaria, en tout cas, on n'a pas atteint jusqu'à 50% de maturité pour dire qu'il y a les Niébé de cette année. Mais on trouve ça et là. Chacun dans son champ, il peut voir un plan à donner. Il ne peut pas affirmer dire que c'est fini, moi, c'est la récolte.
Le jugement en appel dans l'affaire qui oppose l'acteur de la société civile, Mustapha Elhaji Adam, dit Obama, avec le préfet du département de Tanout, a eu lieu hier jeudi 20 août au tribunal de grande instance de Zander. Cependant, ni le plaignant ni son avocat n'ont pris part au procès. Néanmoins, les juges ont écouté l'accusé et le délibéré du jugement est prévu pour le 15 octobre 2020. L'acteur de la société civile, c'est un rappel, a été libéré le 30 juillet 2020 après 3 mois passés à la prison civile de Zander. Il a été interpellé suite à une plainte du préfet de Tanout après un entretien des deux hommes sur le problème d'électricité de cette localité. Selon les résultats des examens virologiques publiés hier par le ministère nigérien de la Santé publique, 2 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés au Niger sur 13 tests réalisés le même jour. Il s'agit d'un cas importé et d'un autre notifié au niveau de la région de Niamey. Ainsi, à la date du 20 août 2020, 11 590 personnes ont été testées à la COVID-19, dont 1169 sont déclarées positives, 69 décès, 18 en cours de traitement et 1082 guéris, d'après l'annonce du ministère de la Santé publique.
Chers amis jeunes, bonjour. Nos parents nous adorent, ils nous éduquent et ils nous payent beaucoup de jeux. Pour toutes ces raisons, aidons-les à prévenir cette grave maladie qui est le coronavirus. Chers amis jeunes, la maladie du coronavirus n'épargne personne. Enfants comme grands, nouveau-nés comme vieillards. Alors, il faut toujours laver vos mains à l'eau et au savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. Il faut toujours éternuer ou tousser dans le creux du coude. Il faut éviter les attroupements. Il faut mettre au moins 1 mètre de distance entre vous et les autres. Mettre toujours les mouchoirs utilisés dans une poubelle. Chers amis jeunes, si vous respectez ces consignes, vous allez vous aider. Aidez vos parents à faire face à la maladie du coronavirus. Mes amis, le coronavirus ne demande pas ton âge pour t'attaquer. Donc, il faut se prévenir.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Parti Magazine à présent, le 19 août 2020, au lendemain du coup de force militaire au Mali, le pays a fait sujet de plusieurs réactions diplomatiques étrangères. Sur le plan sous-régional, c'est le protocole de la CEDEAO sur le principe de la bonne gouvernance qui a amené les pays ouest-africains à arrêter certaines actions économiques et diplomatiques avec le Mali. Comment la CEDEAO pourrait-elle aider à la résolution de cette crise malienne? C'est la question qu'a posée Olivier Assogbavi à Moustapha Diallo, président de l'association Libre Afrique-Niger. On les écoute.
Comme l'a dit la CEDEAO, lors de son passage à Bamako, il fallait juste reprendre partiellement les élections qui concernaient quelques députés qui avaient été très mal élus. Mais malheureusement, nos chefs d'État ont la sourde oreille face aux revendications légitimes du peuple. Ça fait plus d'un mois que la CEDEAO avait organisé cette rencontre à Bamako. Il ne s'est pas exécuté et les manifestations ont commencé à prendre une autre tournure. À chaque fois, l'armée devient la solution lorsque le politique n'arrive plus à s'entendre. L'opposition et la majorité n'arrivent plus à s'entendre autour d'une table de négociation. L'armée est toujours là aux aguets.
Comment est-ce que la CEDEAO pourrait aider le Mali aujourd'hui à sortir de cette crise?
Si on veut réellement que la démocratie et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance puissent vraiment trouver tout son sens, il faudrait que la CEDEAO reste ferme par rapport à cette situation. Il faudrait que la CEDEAO fasse tout pour que d'abord, pour qu'on réinstaure Ibeka, il n'y a pas possibilité de le réinstaurer. Il faudrait passer rapidement à la mise en place d'un gouvernement de transition dans un plus bref délai. Parce que c'est un mandat constitutionnel qu'on a interrompu de façon illégale. Quoi qu'on puisse dire, les contestations des Maliens sont des contestations légitimes, mais la solution n'est pas l'armée.
Outre le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée se préparent aussi à des élections très récemment. Est-ce que ce n'est pas trop de dossiers pour une seule institution, la CEDEAO?
Cette situation du Mali va faire tache d'huile en Guinée et en Côte d'Ivoire. Ça va donner beaucoup plus de tonus et d'engagement aux acteurs de la société civile qui vont se battre pour empêcher purement et simplement à ces deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Condé, de briguer un troisième mandat. Et cette situation risque de plonger malheureusement la CEDEAO dans une situation d'instabilité jusqu'à 3 pays. Le cas du Burkina aussi n'est pas à exclure parce que à l'allure où vont les choses également, l'opposition est en train de s'armer pour pouvoir chasser également le président Roch. Il ne faut pas aussi oublier le Niger où l'opposition est en train de contester la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, où beaucoup de ses membres sont taxés d'être partisans du parti au pouvoir. Donc tous ces dossiers-là risquent d'être très difficiles à gérer pour la CEDEAO, mais je pense qu'il va falloir déjà que la CEDEAO aussi, de la même façon qu'elle a adopté cette fermeté vis-à-vis de la situation au Mali, elle doit être également ferme par rapport à la situation qui va bientôt surgir au niveau de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures dans la CEDEAO, sinon ça sera une situation que la CEDEAO ne pourra plus gérer et l'institution va perdre toute sa crédibilité au niveau de la communauté.
C'est la fin de ce journal de Studio Kalangou. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le forum de la presse.
De Kirozerine à Dolbel,
de Menosoroa à Birningaouré.
Suivez les programmes du Studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou, au rythme du Niger.